Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Antoine Robitaille. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, qu'est-ce qui retarde la construction de logements sociaux au Québec? Dans une analyse récente à l'émission du Trisac, j'ai dit que les groupes de ressources techniques, ces entreprises d'économie sociale, pouvaient être une bureaucratie ralentissante. Et le président d'un GRT, comme on les appelle, vient aujourd'hui à mon micro pour répliquer à ce propos. Et avec lui, on tente de mieux comprendre la mécanique qui semble assez complexe de construction et de projet de logements sociaux. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre. Les voix de la voix.
Émotionnelle ou rationnelle? Rationnelle. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
Bonjour Guillaume Lavoie.
Antoine Robitaille, bonjour.
Expert en politique publique, turiféraire du covoiturage. Ah, c'est ton nouveau surnom. On fait tout de suite l'analyse sportive de la période de questions. Oh, et ça a été sportif encore aujourd'hui, encore plus qu'hier, je trouve, hein, Guillaume?
Oui, sportif, quoique, moi je dirais que d'abord, là, il faut parler d'une conduite anti-sportive,
oui.
Un geste immature. C'était très triste là, de voir ça. Une chance que la période de questions était à 10h ce matin. Ça m'a donné le temps de me défâcher parce que, et c'est le député de la région de Québec, du comté de Jean-Lesage, M. Sol Zanetti, qui avait commencé, et on s'en parlait, on était très heureux de ça, une question absolument pertinente et intéressante, à savoir qu'il y a un poste vacant au CRTC, c'est oui. L'organisme fédéral qui régit la radio et la communication télé. Et là, on se disait, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de souveraineté culturelle? Là, il parlait de la souveraineté comme quelque chose de désirable. Puis là, je me dis, il n'y a peut-être pas vérifié avec les électeurs de QS. Mais jusque-là, on avait quelque chose, Antoine, une question absolument pertinente. Et là, on attendait la réponse du gouvernement. Et là, franchement, après ça, c'est là que ça a complètement dérapé.
Oui.
Le député Zanetti, je pense, a erré. Il a eu un comportement imbécile, honteux, indigne de son siège de député et carrément irrespectueux envers l'institution.
On peut écouter l'échange. Là, c'était Jean-François Roberge, ministre des Relations intergouvernementales canadiennes, qui se moquait de Québec solidaire. Puis tout de suite après, c'est là que Sol Zanetti a fait sa clownerie. On peut écouter ça.
Ils tiennent deux discours. Il faut faire des petits gestes. Il faut se mobiliser. Sauf si ça nous touche, nous, de Québec solidaire à temps partiel. Puis après ça, ils viennent nous faire la leçon ici en disant qu'eux sont plus verts, plus solidaires. En réalité, ils s'occupent de leurs petits intérêts partisans. Et ils sont très bons là-dedans.
Beaucoup de procès d'intention là-dedans, M. le Président, mais il y a quelque chose à laquelle ne répond pas la CAQ. C'est où est-ce qu'ils sont les pouvoirs qu'ils avaient promis de rapatrier? Il n'y a pas beaucoup de mots qui peuvent décrire le dégonflement du nationalisme caquiste, mais peut-être que cette image pourrait aider.
Monsieur.
Alors, Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de la baudruche qui se dégonfle en direct?
Mais je pensais, moi, le geste de M. Zanetti, là, Jacques Lemaire, à un moment donné, avait dit, c'est l'ancien entraîneur du Canadien, quand il voyait des choses comme ça, il appelait ça du stuff de junior.
Ah oui.
Je pense que c'est même pas encore assez sévère. Il aurait dû être expulsé immédiatement de la Chambre. Et pour moi, il ne devrait pas avoir le droit de remettre les pieds avant de faire un vrai discours où il vient faire amende honorable et s'excuser à tous ses collègues, à l'institution et à tous les Québécois. C'est indécent ce qu'il a fait.
Ben non, il méritait simplement un avertissement. Ce que Franz Benjamin n'a pas eu le courage de faire, ça, j'en reviens pas. Parce que, tu sais, ici à l'Assemblée nationale, là, il y a possibilité de donner un avertissement, deux avertissements, trois, c'est expulsé.
Mais je trouve, là-dessus, là, on a manqué.
Il y a une belle gradation. Donc, et Franz Benjamin, ce qui est drôle, juste une parenthèse, lui, là, il rêvait d'être le troisième vice-président de l'Assemblée nationale. On se souvient, querelle avec Marie-Claude Nichols, qui, elle, en voulait un bout, parce qu'elle
oui, disait... Il a manqué une belle opportunité de faire sa job.
Et ben, il y en a eu pour son argent. Il a été obligé de suspendre. Moi, j'ai pas vu ça depuis très longtemps. Là. Je pense que François Paradis a pas suspendu une fois dans tous les cinq ans où il a été, ou les quatre ans où il a été président. Ça remonte à la dernière fois que j'ai vu une suspension de séance, c'est Jacques Chagnon. Et là, Franz Benjamin a été obligé de suspendre. Et après, et bon, là, j'ai couru au Salon Bleu pour voir comment ça se passait. Puis tout le monde. Je veux dire, il y avait plein de députés qui nous disaient, eux autres, ils étaient en bas, nous, en haut de la tribune, mais ils disaient, mais là, il va y avoir un avertissement. Ben non! Franz Benjamin est revenu sur le trône, puis tout ce qu'il y a eu à dire, c'est quelque chose comme, il faut garantir le droit de parole de chaque député. Ben bravo, mais quand même, il a fait une niaiserie, là, il aurait dû avoir un avertissement, en tout cas.
C'est minable. Puis là-dessus, M. Zanetti devrait avoir le jugement de lui-même reconnaître qu'il a manqué de respect à l'institution, de lui-même reconnaître que c'est très grave et de prendre les devants pour présenter ses excuses à tout le monde. En passant, Antoine, moi, je l'ai écouté en direct et ce que j'ai vu quand il a fait sa clownerie, c'est ses collègues de Québec solidaire qui trouvaient ça drôle.
Oui.
Alors moi, d'abord, la question, ce serait aux collègues. Est-ce que vous le saviez, parce que la période des questions, ça se prépare au caucus, là.
Mm-hmm.
Et quand vous avez ri comme des enfants d'école qui n'ont pas du tout la maturité d'être assis là, est-ce que vous aviez honte a posteriori? Est-ce que vous cautionnez votre collègue ou vous allez le condamner? Évidemment, on pourrait dire que par solidarité de caucus, on ne condamne pas nos collègues en public.
Non, non.
En privé, j'espère qu'ils vont y donner un bon, j'allais dire, un sérieux avertissement, parce que sais-tu ce qui est triste là-dedans, Antoine, outre le manque de respect à l'institution, c'est qu'il y avait ici un propos de politique publique extraordinairement intéressant.
Ben oui.
Il a lui-même passé à la trappe parce qu'il ne sait pas se comporter sur la glace.
Deuxième segment, rapidement, un règlement qui n'a pas besoin d'être changé dans notre sport là, de période
oui,
de questions.
Là, je suis sûr, Antoine, que je vais être à contre-courant. Québec solidaire, puis ironiquement, c'est M. Zanetti qui l'a déposé, un projet de loi numéro 499 sur la réforme du mode de scrutin.
Oui.
Hein, que tout le monde avait promis, sauf les libéraux. Puis que finalement, ici, la CAQ avait eu le bon réflexe de dire finalement, on n'ira pas de l'avant. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais moi, je pense qu'on erre dans ce dossier-là parce qu'entre autres, on compare les désavantages de notre système avec les avantages d'une réforme, une vraie comparaison devrait
être... Mais oui, t'es contre la proportionnelle, toi.
Sur le fond, moi, je pense qu'on évalue mal l'importance des avantages de notre système actuel. Et là, on pourra faire une vraie comparaison, mais on va en reparler, Antoine.
On va en reparler, certains. Moi, je pense que peut-être qu'on pourrait trouver une formule, parce que la proportionnelle, c'est pas unique. Il y a mille et une formules. Puis il y avait une formule qui avait été dessinée dans le projet de loi 39 qui n'était pas folle, qui était très modérée. Mais comme tu dis, on va en reparler plus en détail lorsqu'on aura peut-être étudié aussi le projet de loi de Sol Zanetti. Parlons maintenant du joueur zombie qui revient toujours. Aïe, 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 c'est décourageant.
Antoine, s'il n'y avait pas eu les frasques du député Zanetti, là, vraiment... Presque toute la période de questions a été monopolisée sur le troisième lien.
Ah.
Un sujet qui avait été autrement débattu.
Merci, François
enterré,
Legault.
Mort, et là, on a un mort vivant qui revient. C'est vraiment le joueur zombie. Et à un moment donné, Antoine, toi qui es de Québec.
Oui. Alors,
moi, je suis un bleuet. Il y a des gens ailleurs au Québec. Je pense que le reste de la province comprend mal pourquoi ce projet-là est si important pour qu'il soit ramené comme ça dans le cadre d'une élection partielle catastrophique pour le gouvernement dans la région de Québec. Ça a l'air d'être plus qu'un enjeu de transport ou de mobilité. Il semble y avoir un enjeu électoral là, presque historique à la région. Si on manque d'expliquer ça au reste de la province, on va peut-être avoir des problèmes à être capable d'en parler.
Au reste du Québec, pas la province, s'il te plaît. pas à mon micro. Non, mais oui, je vais l'expliquer un jour, le troisième lien. Pourquoi c'est si... ça revient tout le temps. Pourquoi c'est un serpent de mer? C'est ça, c'est un serpent de mer. Ça revient tout le temps. Il va falloir y revenir. Mais je veux qu'on écoute un extrait d'un échange entre Moncef Deraghi du Parti libéral, qui s'est mis à crier là, contre la panique du gouvernement, et Geneviève Guilbeault. Et c'était sur fond d'un autre projet. Là, on parlait du REM de l'Est à ce moment-là. Là aussi, il semble avoir beaucoup d'improvisation de la part du gouvernement. Et c'est un échange que j'ai trouvé drôle et cocasse. Ça fait du bien. Là. On l'écoute, oui.
Une élection partielle pour déclencher la panique totale au sein de ce gouvernement.
Ma collègue du Conseil du Trésor souligne à juste titre qu'il existe des boissons calmantes pour ceux qui peuvent en avoir besoin. Et j'ai moi-même des produits intéressants fabriqués dans Louis Hébert, Monsieur le Président, sans vouloir être chauvine, que je peux lui offrir.
Je vais...
S'il y a quelqu'un qui a besoin de camomille, c'est vous autres.
Oui, les deux ont été assez habiles, Mme Guilbeault et Moncef Deraghi.
Si votre adversaire s'énerve, exagérez la chose en étant calme. S'il est trop calme, vous feignez la colère. Alors ici, bonne technique, bien exécutée.
Oui.
Mais bon, on n'a pas réglé les problèmes ni du troisième lien, ni du REM. Ça, je pense
non,
que
c'est
resté, par exemple.
C'est ça, on est sur la forme, là, vraiment. Mais je trouve que Moncef Deraghi a bien fait de répondre. S'il y a quelqu'un qui a besoin de camomille, c'est bien vous. C'est vrai qu'il devrait se calmer. Hey, il ne faut pas passer à côté du jeu du match, quand même. Quel est le jeu du match, selon toi, Guillaume?
Oui, c'est même, je dirais, la joueuse étoile du match, et c'est la députée du Parti libéral du Québec dans la région de Laval, le comté de Mille-Îles, Mme Virginie Dufour, qui elle a posé une question vraiment sur les faits, et c'est cette histoire d'une succursale de la SAQ à Victoriaville.
Oui.
Comment est-ce que ça peut atterrir à l'Assemblée nationale, ça? Eh bien, à Victoriaville, il y a un maire qui fait partie de ce que j'appelle les modernes, qui veut repenser un centre-ville plus dense avec des services et autres. Et là, la succursale de la SAQ, elle, pendant ce temps-là, s'organise pour déménager presque dans un quartier résidentiel qui ne fait pas du tout de sens avec l'aménagement ou l'urbanisme moderne.
Mm-hmm.
Et là, elle pose cette question-là au ministre des Finances, qui est le ministre en titre responsable de la Société d'État.
Éric Girard, oui.
Éric Girard. Et là, là-dessus, j'aime la réponse de M. Girard, mais j'aime encore plus la question de la députée Dufour. D'abord, Éric Girard a dit, ben là, moi, je suis ministre d'une Société d'État, je l'administre, j'en suis responsable, mais c'est pas moi qui vais aller décider. Il faut toujours se méfier de cette espèce de réflexe jacobin. C'est pas au ministre de décider où est-ce qu'on installe les succursales.
Ben non.
Mais la question demeure. Le ministre, par exemple, il les a nommés les membres du CA. Hein, ces espèces de cro-magnons de l'urbanisme. Là.
Mm-hmm.
Il trouve que c'est logique de faire ça. Le PDG, là, où il se... Très franchement, à la SAQ, il y a des coups de pied au derrière qui se perdent.
Mm-hmm.
Du cro-magnonisme d'urbanisme comme ça, je ne m'attends pas à ce que le ministre des Finances responsable de la SAQ dise « c'est ici qu'il faut l'installer ». Mais s'il y a besoin de changer le CA et le PDG, ça m'apparaîtrait dans l'ordre des choses.
Mm-hmm. Mais c'était drôle de voir qu'André Laforêt, la ministre des Affaires municipales, elle a comme contredit Éric Girard en disant qu'elle travaillait là-dessus aussi, sur la relocalisation.
Oui, ça, c'est troublant, ça.
C'est bizarre, parce que...
C'est ça qui vient défaire tout l'effort et de la bonne posture
oui,
du ministre des Finances.
C'est ça.
Dire, cette idée que chaque problème doit remonter au ministre. C'est comme l'idée des cellulaires dans les écoles. Là. Pourquoi faut que le ministre s'en mêle? Il y a déjà des gestionnaires qui sont supposés être responsables de leurs décisions.
Mm.
Alors, réfrénions cette tentation d'intervenir dans le détail. Mais
ouais, mais attention, le jacobinisme a le dos large, là, parce que moi, je trouve que c'est une bonne affaire que Drainville, le ministre de l'Éducation, ait fait sa directive sur les cellulaires. Au moins, ça va être uniforme.
Moi, ce qui m'attriste, c'est que, parce que si on fait comme ça, c'est ce que j'aime pas du réflexe jacobin,
ouais.
C'est qu'avant de bouger, ça prend tellement de temps que moi, j'aime mieux qu'il y ait des expériences différentes. Il faut tolérer les erreurs et accepter les bons coups. Il y a plus de compétition à la hausse ou vers les bonnes idées comme ça.
Mmh.
Plutôt que d'attendre d'avoir tout étudié en détail et tout. Mais très franchement, moi, j'aimerais beaucoup que l'Assemblée nationale convoque les tarlets de la SAQ et de leur dire, vous, là, vous possédez de l'immobilier et vous opérez des commerces à la grandeur de la province.
Mmh.
Est-ce
du
qu'il
Québec.
Faut vous expliquer...
Du Québec.
Oui, à la grandeur du Québec. Est-ce qu'il faut vous le réexpliquer encore combien l'urbanisme moderne, c'est important, où on a besoin de vous changer un par un. Il y a des coups de pied derrière qui se perdent. Là-dessus, j'imagine que le message va être entendu.
Merci beaucoup, Guillaume Lavoie, puis on se reparle lundi prochain. Merci.
Au plaisir.
Salut. Je rappelle que Guillaume Lavoie est expert en politique publique et turiféraire du covoiturage.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Vous savez, à la haut sur la colline, il y a un département des plaintes. Or, récemment, dans une analyse en parlant de la crise du logement et du manque de logements sociaux, j'ai affirmé qu'une part de la responsabilité revenait peut-être à la bureaucratie, notamment au groupe de ressources techniques. C'est un intermédiaire là, dans ce monde-là que je vais justement vouloir expliquer aujourd'hui. Bien, ça a choqué des gens au milieu de ces dans ce milieu-là, des groupes de ressources techniques. Et pour mieux comprendre ce que c'est un GRT, leur rôle et ce qu'ils pourraient peut-être apporter dans comme solution dans la crise, bien, je rejoins Raphaël Derry. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Robitaille.
Monsieur Derry, je vous présente. Vous êtes directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais. Ça, c'est un groupe de ressources techniques.
Exactement. On réunit une trentaine de coopératives d'habitation sur l'ensemble du territoire de l'Outaouais et de la MRC Antoine Labelle.
Pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est qu'un groupe de ressources techniques? Pourquoi ça existe? Pourquoi cet intermédiaire-là dans le monde de l'habitation?
En fait, un groupe de ressources techniques, c'est une entreprise d'économie sociale. C'est un réseau qui date d'à peu près une quarantaine d'années, 45 ans. Puis l'objectif de ces groupes-là, donc c'est des OSBL un peu partout au Québec, c'était de faciliter la réalisation, et c'est encore de faciliter la réalisation de projets d'habitation communautaire. Donc, quand les OSBL puis les coopératives, quand des gens, des bénévoles, des citoyens ont envie de créer un projet d'habitation communautaire, coop d'habitation, bien, ils vont consulter un groupe de ressources techniques. Puis nous, on a une expertise là pour faciliter la réalisation de ces projets-là, parce qu'on connaît les programmes de financement, on connaît les partenaires, on connaît les étapes de réalisation des projets. Donc nous, on est là pour faciliter la réalisation. C'est pour ça que quand je vous ai entendu la semaine dernière, j'étais d'accord avec une partie de votre prémisse qui était à l'effet que c'est pas le gouvernement qui est responsable de la crise du logement. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Mm-hmm. Mais l'imputabilité peut pas reposer, à mon sens, d'aucune façon sur les groupes de ressources techniques. Nous, on est là pour faciliter. Là, on subit la bureaucratie.
Ah, vous subissez la bureaucratie, mais vous êtes un intermédiaire, si je comprends bien. Mettons que des citoyens veulent de l'habitation, ils vont vous voir, c'est ça que vous m'expliquez?
Oui, alors exactement, et on va les accompagner à travers l'ensemble du processus, de la réalisation.
Mais pourquoi ils vont pas tout de suite voir, mettons, leur échevin ou leur député? Pourquoi ils passent par vous?
Bien, ils passent par nous, puis je vous dirais qu'on a généralement fait l'affaire de tous les gouvernements, parce que sinon, c'est le gouvernement du Québec directement qui répondait à l'appel de chacun de ces citoyens-là. Alors que là, nous, on agit comme chargé de projet, donc on travaille avec la SHQ, par exemple, on travaille avec les municipalités.
Ça, c'est la Société d'habitation du Québec.
Oui, exactement, merci de la précision. Donc, on travaille avec ces partenaires-là, mais on est un peu, je veux pas dire guichet unique, là, c'est pas exact, mais on a créé ces partenariats-là avec l'ensemble des intervenants. Donc, ça facilite le travail de tout le monde, parce que sinon, si c'était la ville là, qui recevait les appels à tout bout de champ pour démarrer des projets, ben la ville, de toute façon, n'a pas les outils pour s'occuper de projets d'OSBL en habitation comme ça.
Mais pourquoi c'est pas le ministère de l'habitation ou la Société d'habitation du Québec qui reçoit ces appels-là directement ou la portion du, je sais pas moi, de l'administration municipale qui est dédiée à l'habitation?
Ben, en fait, parce que ce que la SHQ a voulu faire comme modèle à l'époque, c'était d'avoir à l'intérieur des réseaux, donc les coopératives d'habitation, que cette expertise-là soit développée à l'intérieur de ces réseaux-là, que ce soit des réseaux autonomes qui se développent.
Des réseaux, expliquez-moi.
Oui, ben, les coopératives d'habitation, ben, c'est une forme de réseau. Donc, on travaille, on fait de l'intercoopération, de l'entraide en coopérative. Mm-hmm. Donc, on essaie de développer. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce que c'est qu'une coopérative. Hein. Ce sont les membres, ce sont les locataires dans l'habitation qui vont prendre les décisions démocratiquement pour la coopérative, pour leur parc immobilier, en tenant compte de leurs besoins puis de leur capacité de payer. Donc, alors, c'est pour ça la SHQ, puis je dis la SCHL également, la Société canadienne d'hypothèque et de logement du côté fédéral, eux, ils ont voulu développer cette expertise-là au sein des réseaux. Puis, ben, eux, c'est ça faisait quand même leur affaire là, de pouvoir avoir cette, vous dites intermédiaire, mais d'avoir ces professionnels-là qui pourraient aider les gens à la prise en charge de leur projet. Là.
C'est comme une fonction publique, j'allais dire parallèle, je sais que ça peut avoir l'air... péjoratif, là, mais je veux dire, c'est comme une fonction publique à l'extérieur de la fonction publique, au fond.
Ah, moi, je partage pas du tout cette perspective-là parce que on est dans de l'économie sociale. Nous, on est là pour faciliter les projets.
C'est quoi la différence? Pour l'auditeur là, qui écoute? Là?
Ben, la grande différence, c'est que moi, j'ai pas dans mon entreprise d'économie sociale, j'ai pas la convention collective des employés là, de l'État québécois, par exemple. Okay. Moi, je fais affaire directement avec les professionnels, avec les architectes, avec les ingénieurs. Je les connais dans mon patelin. On est là pour accélérer les processus, mais on va connaître aussi la réglementation québécoise. Et le financement, c'est pas que gouvernemental, parfois. Là, donc, on va chercher du financement gouvernemental, mais des fois, on fait des projets à l'extérieur des programmes gouvernementaux, donc c'est pas que la fonction publique là.
OK. Donc l'argent peut venir de privé, c'est ça?
Oui, ben tout à fait. Puis je vous avoue qu'avec les difficultés de trouver le financement public depuis quelques années, ben il a fallu qu'on trouve des façons particulières de développer nos projets à l'extérieur des programmes gouvernementaux. Donc on va voir des partenaires financiers différents, des fondations par exemple.
Ah oui, OK. Donnez-moi des exemples de fondations qui vont financer du logement social.
Ben, je vous dirais que une des fondations qui fait là, j'ai peur d'en oublier, là, mais une de celles là, qui me vient à l'esprit rapidement, c'est la fondation André-Lucie Chagnon, par exemple.
Ah oui, OK. OK. Est-ce que tous les groupes de ressources techniques sont efficaces? Ou est-ce que...
Moi, je défends ce réseau-là à 100 km/h. Je n'ai aucune réserve là-dessus. Ceci dit, ce que je peux déplorer avec le temps, puis je pense pas que personne va m'en vouloir là-dessus, mais parce qu'on, nous, dans le fond, notre expertise, on l'a à travers la réalisation des projets. Si on a moins de projets à réaliser parce que le financement public est de plus en plus rare, mais c'est sûr qu'on a peut-être plus de difficultés à entretenir cette expertise-là. La façon qu'on a pallié à cette difficulté-là, ben ça a été de se soutenir dans un réseau beaucoup plus grand. C'est sûr qu'il y a des GRT qui ont continué à réaliser des projets, en particulier à Montréal, par exemple. Alors là, ce sont les plus grands GRT qui ont réussi à travers de l'entraide, à soutenir l'ensemble du réseau. Puis, donc, on fait de la formation en continu avec l'ensemble du territoire là-dessus. Mm-hmm.
Donc, vous qui êtes au cœur de ça, la construction du logement social, c'est quoi le problème? Pourquoi, comme dit, tu sais, j'ai entendu François Legault lors de son discours d'ouverture, juste après les élections, il y a un an, il a pointé directement, il a dit, on met de l'argent dans le logement social, puis ça se construit pas. Est-ce que c'est juste la rareté de main-d'œuvre ou qu'est-ce qui fait que, justement, on n'arrive pas à en construire plus rapidement? Tu sais, à Montréal, même chose, il y avait une promesse de Mme Plante là, d'en construire plusieurs milliers. Finalement, je me souviens, au bureau d'enquête, on a déterminé que c'était une fraction de ces milliers-là qui avaient été construits. Qu'est-ce qui se passe?
Oui. Ben, en fait, concrètement, il y a deux enjeux, là, parce qu'il y a l'enjeu de la difficulté de la construction, mais il y a l'enjeu de la crise du logement dans son sens large. Ben là, j'ai envie nommer par exemple la croissance démographique très, très importante qu'on connaît depuis quelques années, depuis plusieurs années en fait.
L'immigration, on peut dire l'immigration?
Oui, on peut effectivement nommer ça. On n'a pas une politique nataliste très très efficace pour l'instant.
C'est ça.
Donc, mais oui, l'immigration, par exemple. Mais ensuite, on a une diminution du parc privé aussi parce que vous avez vu les Airbnb. Moi, j'ai été catastrophé de voir à quel point les plateformes, elles sont hyper populaires dans les secteurs centraux, dans nos villes. Il y avait une compagnie, une multinationale, en fait, qui avait fait un recensement des logements qui avaient été convertis en hébergement court terme dans les plus grandes métropoles du monde.
Ouais.
Puis le Vieux-Montréal, c'est une vraie catastrophe. Là. Tout était rouge de disponibilité pour cet hébergement-là.
Mais, et dites-moi, c'est quand même pas Airbnb qui empêche la réalisation de logements, comme le dit le premier ministre, et à Montréal, les promesses, et c'est ni la démographie, ni les Airbnb. Alors, c'est quoi?
Alors, pour ce qui est de la construction, ça, c'est un choix de politique publique. Depuis, je vous dirais, là, une quinzaine d'années, ce qu'on observe, c'est que les gouvernements qui se sont succédés ont préféré ce qu'on appelle le financement à la personne plutôt qu'à la brique. Ça, c'était le gouvernement Harper, on utilisait beaucoup cette expression-là. Mais donc, on voulait, en somme, financer les ménages à l'intérieur, soit d'un parc privé ou de l'habitation communautaire, avec ce qu'on appelle des suppléments au loyer. Alors ça a été une façon, mais plutôt que de construire puis de financer la construction de logements communautaires ou abordables, ben on est allé vers cette façon-là pour financer les personnes plutôt que la construction. Et on a gelé, on a fait une sorte de moratoire sur l'indexation des coûts de construction, les coûts admissibles de construction. Alors là, je vous donne un exemple, mais pour le gouvernement du Québec, là, ça coûte grosso modo la même affaire construire un logement aujourd'hui en 2023 que ça en coûtait en 2015 ou en 2014.
Ah.
Et ça a été ça tout le temps.
Donc, ils n'ont pas ajusté leurs enveloppes, là.
Exactement. Alors,
mais
ça
pourtant,
a été ça,
le premier ministre, il dit, c'est le 5 décembre 2022, il dit, il y a des milliards qui sont disponibles pour construire des logements sociaux abordables, puis on n'arrive pas à les construire. Donc, c'est des milliards, oui, mais pas assez d'argent pour chaque projet parce qu'on calcule comme si on était encore en 2014, c'est ça, si je comprends bien?
Ben c'est pas mal ça, effectivement. Puis l'autre chose, c'est pas que de construire. Souvent, ces programmes-là sont assortis de différentes contraintes, de différentes conditions. Et puis ça fait souvent que ça génère des coûts supplémentaires dans la réalisation des projets. Mmh. Alors, je vous dirais que moi, quand j'identifie les facteurs de difficulté pour la réalisation des projets avec les programmes actuels, là, on a le financement qui est défaillant. Et on a des programmes qui sont pas agiles. Donc,
Il y a Accélogie qui a été éliminé parce qu'on le trouvait justement pas efficace et il a été remplacé par un autre, d'après ce que j'ai compris, par la ministre Duranceau. Puis celui-là, il est pas plus efficace, d'après ce que je comprends aussi. Donc, on est mal barré.
Moi, je suis un nationaliste, d'accord? Moi, je suis très fier de ce qu'on fait au Québec. Puis on a toujours eu des politiques publiques innovatrices.
Ouais.
Le gouvernement fédéral, je parle à un constitutionnaliste amateur en vous, là.
Oui.
Le gouvernement fédéral a assumé cette compétence-là dans les années 50 jusqu'à dans les années 90. Le Québec a pris sa place avec le programme Accélogie, avec le gouvernement de Lucien Bouchard, puis sous la direction de Louise Arel à l'époque, avec la conception du programme Accélogie. Et ça a permis, on a 80 000 unités qui ont été développées dans le réseau de l'habitation communautaire avec les GRT depuis les années 80. Puis Accélogie a permis la réalisation de 45 000 de ces 85 000 ou 80 000 là.
Okay.
Alors, ça, pour moi, c'est un signe qu'on a réussi quelque chose. Puis pendant ce temps-là, dans le reste du Canada, il ne se développait pas d'unité de coopérative ou de logement communautaire. Alors, Accélogie a été utile, mais encore faut-il qu'on le finance puis qu'on le priorise. Si on ne le fait pas, ben c'est regrettable, mais effectivement, on arrivera au même constat que le premier ministre. On met de l'argent, mais pas assez, puis on ne réalise pas des projets.
Donc, c'est à lui à agir? C'est ça que vous me dites, au fond?
C'est clair, ça prend des décideurs. Moi, je trouve que les gouvernements, les municipalités, déploie beaucoup d'efforts pour réaliser des projets, pour innover. On a vu les droits de préemption. Je vois beaucoup d'initiatives ici à Gatineau, oui, du côté de Montréal,
à Québec. Là, il y a sept terrains, je pense, où la Ville a exercé son droit de préemption.
Exactement. Oui, c'est colossal. Mais là, du côté du gouvernement du Québec puis du gouvernement fédéral, là, on doit vraiment mesurer l'ampleur de la crise puis agir. Là, ça, c'est, il y a une urgence, là.
Ben, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Raphaël Derry. Puis je m'excuse là pour ma déclaration. Et je rappelle que vous êtes directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais.
Merci.
Au revoir. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.